Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture planète du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone et filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Comme...
J'ai une surprise pour toi.
Je te dis, je t'aime beaucoup, tu le sais.
Tu me laisses tomber.
J'en aime un autre.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale comédie avec Crazy Family de Sogo Ishii qui sort chez Carlotta Film. Avec également Dîner à l'anglaise de Matt Wynn qui sort chez Blackout. Et puis nous reviendrons plus longuement sur le coffret Apatow Productions hein, qui met en lumière trois comédies cultes des années 2000 et 2010. Sans Sarah, rien ne va dans sa version longue de Nicolas Stoller. Donc un autre film de Nicolas Stoller, 5 ans de réflexion également en version longue. Et puis un film qui jouit même d'un certain culte, on va dire, y compris dans l'Hexagone, hein, Mes meilleurs amis, dans sa version non censurée, un film de Paul Feig qui date de 2011. À ce sujet, nous interviewerons longuement Nicolas Télope qui a signé le livret Mélancomique. Alors Mélancomique, c'est le livret donc, qui accompagne ce coffret Apatow Productions. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mottier et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. Je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Cher Damien, nous allons débuter cette émission comédie par un film fou, un film de 1984 qui est signé Sogo Ishii. Alors, Sogo Ishii, c'est un réalisateur japonais, en fin de compte, qui est assez peu connu du grand public. C'est un réalisateur punk, presque underground, hein, et qui a eu une carrière qui a été longtemps arrêtée aussi. Il avait du mal à faire produire ses films. Enfin, c'est un personnage un peu particulier. Et d'ailleurs, là, le film qui sort chez Carlotta, Crazy Family, c'est un de ces rares films qui a eu les honneurs de sa première période, parce qu'il a eu deux périodes. Il a une période après, on va dire, peut-être plus autorisante dans sa deuxième partie de carrière, mais dans sa première partie qui était très punk et complètement barrée, à côté même, enfin je veux dire, des Tsukamoto et tout, c'est gentil, quoi. Là, c'était vraiment complètement fou. Et ben dans cette période, il y a un film qui va aller à la Berlinale, il y a un film qui va lui ouvrir les portes de l'international, c'est Crazy Family. Mais le film va faire peur, en fait, et pendant 10 ans, il va pas faire de film derrière, parce que personne voudra produire ces films, parce que lui, il voudra faire des trucs encore plus fous que ce Crazy Family. Alors Crazy Family, bah, tout est dans le titre, hein. C'est l'histoire de la famille Kobayashi. Alors il y a le père c'est un salarié complètement intoxiqué au boulot, il vient enfin de réussir à avoir la maison de ses rêves. Alors il pense que ça va soigner sa famille, il pense que sa famille est malade du mode de vie dans lequel elle vit, en fait. Voilà, je vous en dis pas plus, faut voir le film. Alors dans sa famille, il a un fils qui est obsédé par le fait de préparer ses examens, mais qui est aussi un geek qui passe son temps à inventer des trucs, à utiliser les technologies de 84, bien sûr, mais à utiliser l'informatique, tout ça. Il a une plus petite fille qui doit avoir 9-10 ans, qui elle se rêve en chanteuse, et il a une femme qui est complètement obsédée par le jardinage, par son intérieur, tout ça, enfin bref. Et puis il y a son père à lui qui un jour se pointe et se met à squatter la maison, organise des fêtes avec d'autres vieux, ce qui fait que sa femme fait des striptease dans la maison, ses enfants deviennent de plus en plus dingues. Et à un moment, il décide que, en fait, sa famille est vraiment malade et que donc il faut tuer tout le monde. Donc il ferme les portes de la maison et ça va faire un truc totalement punk et destructeur où il va se mettre à creuser des trous dans la maison pour rajouter des trous sous terre, sous le plancher, pour rajouter des pièces. Ou en fait, quand il va se décider à vouloir tuer tout le monde va se mettre à se battre dans la maison avec des battes de baseball, avec un marteau piqueur, avec et la jeune fille qui voulait être chanteuse et aussi fan de catch, donc elle va se mettre à faire du catch. Enfin, c'est un film complètement délirant qui traite de toutes les névroses du Japon, puisqu'on a une femme d'intérieur à la libido refoulée, on a un salaryman, un obsédé du travail, on a un geek en devenir. On n'appelait pas encore ça un geek en 84, mais c'est un geek, le gamin. Une fille qui rêve d'être une catcheuse, donc plus dans des attributs combatifs que dans les minauderies et le côté petite chanteuse dans laquelle on veut l'enfermer. Et puis on a donc un film de fou, hein, au final, un film assez dingue dans sa forme, dans son fond. Et en plus, le final que je ne vais pas vous révéler, là, il est vraiment complètement, complètement barré. On se croirait presque dans un manga déjanté. Enfin, c'est complètement dingue. C'est très drôle. Et c'est aussi très effrayant les névroses japonaises, les psychoses de cette société. Et donc, voilà, c'est un film... C'est un film très particulier. Il faut revoir, parce que peut-être beaucoup connaissent Sogo Ishii à travers Le Labyrinthe des rêves, qui est plus un film d'auteur, mais qui est sorti en France, hein, aussi au cinéma. Parce qu'en gros, il a deux films qui sont sortis en salle. C'est Crazy Family, Le Labyrinthe des rêves, voilà, qui sont ses films les plus connus. Mais il a tourné beaucoup de choses. Dans les bonus, on peut le voir, hein, Sogo Ishii. Bon, il est barré, hein, c'est un type assez barré. Vraiment, je vous conseille vivement ce Crazy Family. Alors, pour le coup, c'est une comédie atypique, hein. Vous verrez pas d'autres comédies de ce type de sitôt, je peux vous le dire. C'est de 84, c'est punk, c'est fou, c'est dingue, c'est grand, c'est japonais. Voilà, donc on adore le cinéma japonais dans Culture Prohibée. Donc on vous recommande avec ferveur ce Crazy Family de Sogo Ishii, disponible chez Carlotta Film.
Why are they bringing Jessica? Believe it or not, other people have problems, you know, real problems. Why couldn't she just have killed herself in her own garden?
If the buyer finds out what has happened, he won't buy the house. We have to deal with the situation.
Everything is just great.
You have lost it!
I should never have brought her over.
Jessica puts all in this position.
That's unreasonable!
Don't look.
I'm not looking.
Probably will want dessert.
On va, mon cher Damien, parler d'un film qui est beaucoup plus récent. Un film qui s'appelle Dîner à l'anglaise, un film de Matt Wynne. Un film là qui est sorti il y a peu Blu-ray, DVD, chez Blackout. Qui s'appelle Dîner à l'anglaise. C'est un film de 2023, c'est un film de Matt Wynne. Est-ce que tu t'es invité à la table de ce dîner à l'anglaise, mon cher Damien ?
Oui, je me suis invité à la table de ce dîner et j'aurais pas dû parce que c'était pas un super dîner. Alors c'est un excellent film, hein, mais leur dîner, il était pas très bien. Alors Dîner à l'anglaise, c'est le titre français. Je préfère le titre original The Trouble with Jessica. Et c'est une comédie noire britannique et ça se voit tout de suite parce que les acteurs, ils ont un certain flegme dans leur jeu. Le résumé. Ça va être compliqué parce que il y a un élément qui arrive et qui fait beaucoup de choses, mais je vais quand même réussir à le faire juste avant. Ça raconte l'histoire de Sarah et son mari architecte Tom qui ont des gros problèmes d'argent à cause de Tom et à cause de ça, ils sont obligés de vendre leur belle maison londonienne. Avant de faire cela, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont inviter des amis à dîner, c'est-à-dire un avocat très riche qui s'appelle Richard. Enfin, très riche, c'est un avocat, donc il fait partie de la bourgeoisie et sa femme Beth. Et à ce dîner, Richard et Bev vont inviter une autre amie qui connaît les deux couples, qui s'appelle Jessica. Alors, parler d'amis, c'est un peu compliqué vu les relations qu'ils ont entre eux, qui est une autrice assez scandaleuse dans ses écrits. Il semblerait qu'elle fasse de la littérature érotique, mais aussi un peu autobiographique. Et elle va s'imposer comme cinquième convive à ce dîner où beaucoup de choses vont déraper. Et c'est l'un des gros points forts du film, c'est que c'est constamment inattendu dans les différentes actions qui arrivent. L'une des premières actions qui lance tout le film va concerner Jessica, qui va, au fur et à mesure des événements, offrir une nuit mémorable aux personnes qui sont à ce dîner. J'ai dit que je préférais le titre anglais parce qu'à l'intérieur, il y a un chapitrage dans ce film. C'est un chapitrage qui, en fait, à chaque fois, va s'attarder sur un élément. Le premier chapitre qui arrive, c'est le problème avec Jessica. On va parler de Jessica. Le problème suivant, c'est le problème avec les voisins, avec la voisine, le problème avec les riches, les problèmes avec la police. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce chapitrage, je trouve qu'il donne un petit côté en fait pièce théâtrale, parce que souvent, le problème, le segment qui va être présenté va plus ou moins avoir un segment qui va être attaché à un lieu. Et c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup, en fait, cette unité de lieu et ce chapitrage. Le casting est assez intéressant. Alors, de base, j'avais considéré que c'était un peu des seconds couteaux, mais c'est plus des petites stars qui sont présentes, des petites stars anglaises, dont Rufus Sewell, qui joue l'avocat défenseur de violeurs, qui explique que lui, il aime pas trop faire ça, mais il est bon à faire ça et ça rapporte de l'argent, donc autant qu'il continue, qui a joué dans Dark City ou dans la série Le Maître du Haut-Château. Vous avez Charlie Anderson, qui joue l'hôtesse, Sarah, qui a joué dans Harry Potter et Trustpotting. Alan Tudyk, qui joue, lui, le mari architecte, Tom, qui est joué dans un film que j'adore, qui est Tucker and Dale Fight the Mal, et qui a fait beaucoup d'animations pour Disney, ce qui m'a un peu surpris. Je vais pas vous faire tous les personnages, mais ce que j'aime bien, c'est que les personnages sont très bien, ils sont aisément définis. Par exemple, le personnage de Rich, quand il arrive, sa gimmick, c'est de regarder tout le monde de haut, de visiter les pièces de la maison qu'il veut acheter, et dans chaque pièce, il y a un moment de silence avec juste lui qui dit « Ok ». Et qui passe à la suivante. Y a des scènes qui m'ont fait beaucoup rire, même si c'est pas forcément un film où on rit à gorge déployée. Il y a un moment où ils doivent se cacher dans une voiture. Il y a deux jeunes qui sortent de boîte juste à côté, qui commencent à se monter dessus sur la voiture. Ce qui est une scène stupide, mais qui est extrêmement drôle. Il y a aussi le running gag du clafoutis. Parce que Tom, il sait faire un super bon clafoutis. Et durant tout le film, vous allez avoir différents personnages qui vont expliquer à quel point ils aiment le clafoutis. Et ça tombe bien parce que le clafoutis de Tom, il est super bon. Au final, c'est un film, comme je vous dis, c'était une comédie noire. C'est un film qui est un peu sombre dans ce qu'il dit, mais qui est tout de même amusant. Et en fait, j'aime bien parce que je pense que le film, il met en avant les conséquences de la vie. En fait, il met en avant que dans la vie, il y a des conséquences qu'on peut vivre avec, qu'on peut vivre dans le déni aussi avec, ou alors qu'on peut les assumer.
Effectivement, Damien, excellente petite comédie anglaise. Belle découverte. Alors bon, certains vont peut-être pas accrocher, vont peut-être pas aimer le côté un peu cynique de tout cela, voilà, mais Mais le film est vraiment drôle et va de rebondissement en rebondissement. C'est le principe de ce type de film. C'est ce qu'on appelle une intrigue à tiroir. Et donc, effectivement, on rigole énormément. Les acteurs sont excellents. Effectivement, Rufus Sewell était très, 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 très bon. Bon, il y a aussi des seconds rôles excellents. C'est ce duo de policiers, là, gourmands. Hein, voilà, j'en dirais pas plus. Qui est vraiment sans sas, hein, parce que ça amène des rebondissements dans l'intrigue qui sont assez étonnants. Et puis cet acheteur, tu l'as dit, hein, qui est un peu effrayant, on ne sait pas trop si c'est pas un mafieux, si c'est pas un truand, voilà, donc c'est assez étrange. Et tu as très bien décrit cette scène de visite de la maison. Donc ça s'appelle Dîner à l'anglaise, c'est un film de Matt Wynn, et c'est disponible chez Blackout.
It's getting kind of hard to believe things are going to get better. I've been drowning too long to believe that the tide's going to turn. And I've been living too hard to believe things are going to get easier now. I'm still trying to shake off the pain from the lessons I've learned. And if I see Van Helsing, I swear to the Lord I will slay him. Ah, 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 he'd take you from me, but I swear I won't let it be so. Ah, 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 blood will run down his face when he is decapitated. Ah, his head on my mantle is how I will let this world know how much I love you. Die, die, die. I can't.
De Blackout, je vais aller chez Elephant Film qui nous gratifie d'un très beau coffret, un coffret Judd Apatow Productions, qui donc nous donne à voir trois comédies vraiment cultes. Il faut savoir qu'il y a eu le dernier âge d'or de la comédie américaine, hein, c'est vrai, il part quand même, alors on va en discuter plus longuement avec notre invité, hein, mais il part effectivement d'un acteur que j'adore qui s'appelle Will Ferrell, qui est hyper drôle et qui relance avec une nuit au Roxbury, qui relance tout un pan de la comédie américaine et ce qu'on va appeler la comédie débile. En fait, il s'inscrit dans la filiation des frères Farrelly et il va plus loin dans l'absurde, dans le délirant, voilà, et il va inventer, Will Ferrell, il va créer en fait un personnage de gros bof macho mais qu'on aime quand même, qui va être un peu sa marque de fabrique, qu'on va retrouver dans Ron Burgundy, donc Ian Shoreman, le 1, le 2, qu'on va retrouver dans Les Rois du Patin, où il est extraordinaire, enfin pour moi c'est un summum de la comédie américaine, Les Rois du Patin, qui est rarement cité. Au même moment, il y a l'éclosion de Ben Stiller, hein, Dodgeball, sensationnel, puis bon, Ben Stiller, sensationnel du début à la fin. Et puis, évidemment, il y a les films de Judd Apatow. Alors, ça commence. Il a un succès critique très vite en France avec 40 ans, toujours puceau, hein, qui est son premier long métrage pour le cinéma. Puis, il va enchaîner. Puis, à l'époque, il y a Super Grave, il y a tout ça. Il y a tous ces films. Là, il va y avoir Délire Express, David Gordon Green, qui, avec son acolyte, là, va finir par faire aussi d'excellentes séries. Alors, The Gemstones, par exemple, qu'on peut voir en son sur HBO, mais aussi Kenny Powers ou Is Bone and Down. Enfin, toutes ces séries, où d'ailleurs, Is Bone and Down, il y a dedans Will Ferrell. Donc, et tout ça pour dire qu'en fait, toute cette génération dorée de la comédie américaine qui s'est un peu éteinte, qui a un peu disparu avec l'arrivée de Trump au pouvoir, alors je parle du premier mandat de Trump, hein, aujourd'hui on la retrouve un peu plus sur les plateformes. Et pourtant, elle a amené cette chose en plus, c'est-à-dire qu'elle est un peu la synthèse alors de ce que Nicolas Tellop, lui, il appelle ça la comédie débile, mais c'est vrai que c'est la comédie débile, hein, c'est complètement ça. Hein. Il suffit de voir Frangin malgré eux avec Will Ferrell qui joue de la batterie en claquant ses testicules sur une batterie. Bah ouais, effectivement, il y a quelque chose de débile là-dedans. Et en même temps, c'est débile et c'est profond. C'est-à-dire que c'est à la fois idiot et intelligent. C'est la grande force de ces comédies et de ces productions à Apatow. Alors là, il y a trois films. Il y a donc, alors sur lesquels on va revenir plus en détail avec notre interlocuteur. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pour aller plus en avant sur ces films, plus les découvrir, plus échanger et développer sur ces films, c'est de tout de suite entrer en contact via cet incroyable outil qui est le téléphone avec Nicolas Tellop. Donc Nicolas Tellop qui est l'auteur du livret qui accompagne ce coffret Apatow Productions paru chez Elephant Film, de ce livret qui s'appelle Mélancomique. Donc tout de suite, Nicolas Tellop au micro de Culture Prohibée. Bonjour. Hello. Nicolas Tellop.
Bonjour.
Alors, Nicolas Taylor, bon, vous faites plein de choses, hein. Vous êtes, comment dire, vous êtes rédacteur en chef adjoint, entre autres, à la 7e Obsession. Vous travaillez au Cahier de la BD aussi. Vous avez écrit pas mal d'essais, de monographies, participé à des ouvrages collectifs. Et là, vous signez un ouvrage qui accompagne le coffret Apato Productions, là, qui est édité par Elephant Film, qui réunit deux films de Nicolas Stoller, hein, Sans savoir rien ne va, 5 ans de réflexion, et puis le film de Paul Feig, Mes meilleurs amis. Et ce livret, déjà, première question, elle est simple, c'est ce livret s'appelle Mélancomique. Je trouve que c'est un très beau titre. Alors comment vous avez trouvé ce titre, Nicolas Taylor?
C'est l'éditeur, hein, du coffret qui m'a challengé, parce qu'à la base j'avais proposé un titre un peu trop tordu peut-être, c'était Mélancolie de la comédie débile. Donc il y avait déjà dès le départ cette idée d'associer ce qui a priori ne s'associe pas, à savoir la mélancolie, en tout cas quelque chose, un sentiment un peu diffus qui tire vers le spleen, et puis la comédie que je n'hésite pas à qualifier de débile. Et c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, qui caractérise le genre, à mon sens, au tournant du 20e et du 21e siècle. Et comme bon, c'était un peu trop long, c'était peut-être un petit peu clivant, Victor Lopez m'a proposé de chercher autre chose, et je me suis dit que finalement, en créant un mot valise comme celui-là, Mélancomique, ça permettait de garder la même idée, mais de manière plus synthétique et puis plus jolie peut-être.
Et puis ça rejoint bien en fait la manière dont on peut caractériser en fait c'est cette vague de comédie. Alors on va revenir plus en détail, hein, mais alors effectivement on parle de comédie débile, mais en même temps c'est des comédies qui sont en même temps débiles et profondes, qui sont en même temps qui peuvent être parfois étonnamment grossière, mais aussi étonnamment subtile. C'est une ère très paradoxale, en fait, c'est cette période, cet âge d'or de la comédie américaine qui court en gros, hein, d'une grosse dizaine d'années, du milieu des années 2000 au milieu des années 2010, quoi.
Oui, on pourrait même remonter un peu avant, hein, avec les frères Farrelly, par exemple. C'est un peu les grands frères, quelque part, hein, de cette génération-là, c'est la génération Apatow. Mais même en fait, en réalité, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai pas voulu faire d'ailleurs dans le livret, c'est d'essayer de tenter une forme de généalogie, remonter le plus loin possible, parce que en fait, si on joue ce jeu-là, on s'arrête pas, et on revient très vite en fait à la comédie telle qu'elle était exercée dans l'Antiquité grecque, à savoir des comédies finalement qui n'ont rien à envier au caractère un peu grossier, scatologique. Des films qui nous intéressent. Donc il y a quelque chose en fait dans le geste comique depuis son origine qui est celui d'une sorte de sacrilège, de repousser les limites et en particulier celles du mauvais goût. C'est valable aussi dans la comédie dell'arte italienne. C'est valable ensuite évidemment dans la comédie burlesque et puis dans la comédie du slapstick au cinéma muet. Et à chaque fois, on a cette association un peu improbable, une alchimie extrêmement délicate qui repose sur un rire gras, on va dire, et pourtant une extrême poésie, quelque chose qui est d'une subtilité rare et, à mon sens, d'une grande beauté. Cette alliance, par exemple, de la mélancolie et du comique un peu rentre-dedans, au cinéma, pour moi, elle est d'abord incarnée par Buster Keaton, parce que c'est vraiment le clown triste, hein, par excellence, avec son visage impassible, et même les histoires qu'il construit au fur et à mesure de ses courts-métrages ou de ses longs-métrages sont des histoires qui balancent entre le rire et une forme de tristesse, quoi, en fait. Et cette veine-là, cet équilibre instable, finalement, entre la comédie et la tragédie, quelque part, elle n'avait cessé d'être travaillée pendant le XXe siècle pour arriver à une sorte de réalisation ultime, à mon sens, dans ce qu'on appelle la comédie débile. Donc, c'est ces films, effectivement, qui peuvent être identifiés aux productions Apato, mais qui se limitent pas à ça, en fait. Il y a plein d'autres films en dehors de ce canon-là, à la même époque, qui creusent ce sillon et qui sont absolument passionnants.
D'ailleurs, vous posez un peu deux jalons dans l'ouvrage. Alors, bien sûr, vous parlez des frères Farrelly, tout ça. Évidemment, ils sont inévitables, comme le travail de Ben Stiller. On pourrait aussi aller en dehors du cinéma vers le Saturday Night Live, tout ça. Mais il y a effectivement une généalogie. Puis après, il y a deux jalons que vous posez. Et je suis assez d'accord avec ça. C'est présentateur vedette. Alors, avant, il y a Une nuit au Roxbury, mais on en parlera peut-être. Mais il y a présentateur vedette en 2004 de la légende de Ron Burgundy, The Anchorman, le premier. Et puis 2013, Légende vivante, qui est un peu suite et fin. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est plus. Enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais cette comédie, elle s'est tarie, quoi, à partir du milieu des années 2010. Et ces deux films-là, Anchorman, en plus, ces deux films avec un acteur créateur, humoriste. Bon, il a fait aussi des films qu'il a loupés, mais enfin, il a fait des films géniaux. Je pense au Roi du Patin, qui sont des films extraordinaires. Qui est Will Ferrell. Et Will Ferrell, c'est là, on est typique en. Typiquement en face d'un acteur qui est, mais alors, méconnu, voire mal aimé en France. Ça ne fonctionne pas, Will Ferrell en France. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que moi, je trouve que c'est un type assez génial, en fait.
Oui, c'est un génie. Ça me faisait plaisir, effectivement, d'en parler indirectement, parce que finalement, il n'apparaît dans aucun des films du coffret. Mais Will Ferrell, c'est un génie absolu. Qui réussit à transcender, malgré tout, hein, j'ai envie de dire, tous les films dans lesquels il apparaît, même les moins bons. Et ces deux films-là, en particulier, sont assez remarquables. Et ils posent effectivement les bases de ce que va être la comédie des villes du début jusqu'à la fin. Parce qu'effectivement, il y a une fin. Hein, c'est même pas que ça s'est tari. Moi, j'ai l'impression que ça a complètement disparu. Je ne saurais pas m'expliquer pourquoi ni comment. Je soupçonne que Donald Trump a poussé la caricature tellement loin qu'en fait il en devient un caricaturable. Et que l'Américain moyen qui peut incarner d'une certaine façon trouve là une telle incarnation que ça dépasse l'idée de catharsis qui est celle du film, quoi, de la comédie habituellement au cinéma. Il y a quelque chose comme ça, en fait. C'est un peu comme si Trump avait sabordé, déjoué les ambitions de ce cinéma-là, qui était de rire de soi, de rire de la culture américaine, de rire de ses failles, et puis peut-être aussi de les guérir. Trump, lui, non, il y a quelque chose qui est au-delà de la guérison, malheureusement. Mais pour revenir à Will Ferrell, le génie de Will Ferrell, je le trouve synthétisé dans deux films qui sont pourtant pas ses plus grands films et sont pourtant pas non plus les plus représentatifs de sa veine comique à lui, mais qui justement balancent bien ce qu'on a évoqué là précédemment. C'est Melinda et Melinda de Woody Allen et l'incroyable destin d'Harold Crick, je crois.
Exactement, ouais. Plus poétique.
Oui, voilà, plus un peu à la Capra, une sorte de Capra revisité au début du XXIe siècle. Et dans ces deux films-là, en fait, le personnage de Will Ferrell est au centre d'une incertitude. Dans Melinda et Melinda, il apparaît dans deux versions d'une même histoire qui a une tonalité tragique d'un côté et une tonalité comique de l'autre. Il est au milieu de tout ça, dans cette balance entre la comédie et la tragédie, et je trouve que ça synthétise complètement ce que représente le personnage, en fait. Cette indécision, est-ce qu'il faut en rire ou en pleurer ? Est-ce qu'on est dans le rire débridé, ou est-ce qu'on est au contraire dans une mélancolie profonde dont il faut s'attrister ? Et dans Harold Crick, c'est pareil. Le personnage s'aperçoit au début du film qu'en réalité, il n'est pas une personne comme les autres, mais il est un personnage dans un roman. Et il y a la romancière qui raconte sa vie en voix off en permanence. Et donc, pour lui, l'enjeu, c'est de savoir s'il est dans une comédie. Et donc, dans ce cas-là, tout va bien, parce que ça va se terminer avec un happy end. Ou est-ce qu'il est dans une tragédie ? En l'occurrence, ce serait fatal pour lui, parce que ça veut dire qu'il va mourir à la fin. Et donc, tout au long du film, il a incarné à la main en train d'essayer de faire des croix entre deux colonnes, la colonne comédie, colonne tragédie, pour évaluer tous les événements qui lui arrivent. Et j'ai l'impression que ça, c'est exactement la place, le rôle du spectateur devant les films de ce genre de comédie. On pourrait très bien s'arrêter à chaque scène et se dire, mais attention, là c'est quoi finalement? C'était comique ou c'était tragique? Il faut en rire ou en pleurer? C'est déplorable ou c'est quelque chose d'admirable? Enfin, il y a vraiment ce balancement-là qui est totalement incarné par Will Ferrell dans ces deux films-là, mais en fait dans tous les films dans lesquels il a participé. Les plus grands films comme Frangin malgré eux, je crois, le titre français, ou même Semi-Pro, etc., sont des films qui reposent en fait sur quelque chose de triste, souvent, dans la situation, quelque chose de pathétique. Et malgré tout, malgré ce côté un peu lourd quelquefois, c'est toujours sauvé par la comédie. When I was a young boy, my mama said to me, there's only one girl in the world for you, and she probably lives in Tahiti. Vous écoutez Nicolas Télope, auteur du livret Mélancomique qui accompagne le coffret Apatow Productions sorti chez Elephant Film, au micro de Culture Prohibée.
On a parlé de Will Ferrell, les frères Farrelly, Ben Stiller. Bon, tous ces gens constituent un peu... Enfin, ils ont révolutionné la comédie US des années 2000. Et puis, il y a quelqu'un qui l'a grandement révolutionné et qui a été très bien accueilli par la critique dès son premier long-métrage, hein, 40 ans toujours plus haut, avec Steve Carell, là aussi, un acteur singulier et passionnant. C'est Judd Apatow. Judd Apatow, c'est d'ailleurs quelqu'un aujourd'hui qui fait un peu de... Voilà, il faut aller le chercher du côté des plateformes, mais il ne fait plus grand-chose. On a presque l'impression de Judd Apatow, après on va parler des films du coffret, mais qu'il est allé dans une sorte de jusqu'au boutisme vis-à-vis de son cinéma. Alors pas toujours avec ses meilleurs films, d'ailleurs je trouve ses derniers films où il a étiré sur la longueur, il a essayé presque de provoquer le spectateur. Il est allé vraiment sur quelque chose de, dans la forme, pas expérimentale, mais dans le scénario, dans ce que racontent ses films. Il a confiné de plus en plus vers le drame, vers la tragédie. C'est assez étonnant. On a presque l'impression qu'il s'est... Il s'est constitué une sorte de corpus de films, et puis qu'il estimait là en avoir fait le tour, être allé au bout de ce qu'il pouvait expérimenter. Puis après, il a un peu disparu, quoi. Voilà, aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup parler d'Apatow, qui pourtant est un réalisateur très apprécié de la critique française.
Ouais, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un producteur ou une sorte de showrunner. Le dernier film que j'ai vu de lui, c'était sur Netflix, je ne me rappelle même plus le titre. C'était un film qui avait été tourné pendant le Covid, c'était pas terrible. Et effectivement, il y avait ce côté, on étire le film alors qu'on n'a pas vraiment de scénario, les gags sont pas hurlés de rire, il y a une sorte d'enlisement qui, pour le coup, effectivement, est plus du côté de la mélancolie, voire plus que de la comédie. Mais son premier film en tant que réalisateur, c'est un chef-d'œuvre à tout niveau. Hein, le 40 ans toujours puceau, absolument admirable. D'ailleurs, on y trouve aussi cet équilibre un peu instable entre la mélancolie et la comédie, notamment à travers ce personnage qui est une sorte d'adolescent attardé. Et ça, le motif de l'adolescence, même quand elle est vécue finalement sur le tard, parce que c'est un point commun de tous ces films-là. Souvent, c'est des personnages qui ont une quarantaine d'années, mais qui se comportent comme des adolescents. C'est le cas de 40 ans toujours plus tôt, c'est le cas de Frangin malgré eux, et de plein d'autres. Il y a une forme de crise d'adolescence qui est au centre en fait de ce cinéma, et qui est très très bien représenté, je trouve, dans 40 ans toujours plus tôt, notamment à travers le fait que ce personnage, c'est un enfant, quoi. Il se comporte à tous les niveaux comme un enfant, notamment dans sa collection de poupées, enfin de poupées, de figurines, hein, de super-héros, etc. C'est un personnage qui vit en autarcie, dans une sorte d'enfance fétichisée, et qui va devoir se confronter en fait au monde adulte pour en devenir un à son tour. Et c'est souvent, en fait, chez Judd Apatow, ce genre de récit qu'on va retrouver, mais à différentes étapes, en fait, de l'existence d'un être humain, et notamment d'un homme, en fait. Parce que en cloque mode d'emploi, bah, c'est la suite, quelque part. C'est un homme qui n'est pas prêt à être un homme, mais qui, finalement, du jour au lendemain, devient un père. Et ainsi de suite. Après, il y a la rupture qui est abordée dans un autre film. Après, c'est la crise existentielle du comique avec le fameux...
Oui, avec Adam Sandler.
Exactement. Dernière chose vraiment très intéressante que j'ai vue, auquel il a participé, c'était la série Love sur Netflix, qui était vraiment passionnante. Une comédie romantique torturée, tordue, voire... malaisante, avec des personnages complètement décalés, évidemment, comme ce cinéma aime bien en représenter. Mais sauf que le décalage de chacun des protagonistes, de ce garçon et de cette fille, étaient des décalages qui étaient beaucoup plus douloureux, en fait, à vivre. Et ça en faisait une comédie romantique un peu étrange. Douce, amère, beaucoup plus amère que douce, à vrai dire, mais qui n'en était pas moins belle.
D'ailleurs, lui, il vient... il a marqué son époque aussi à Apatow au départ avec des séries, alors des séries qu'on pas rencontrées forcément, sont devenues cultes, mais qu'on pas, je pense à Freaks and Geeks par exemple, c'est des séries qu'on pas forcément, qu'on rencontrait leur public, mais a posteriori en fait, et c'est comme ça qu'ils débutent. Donc c'est l'écriture sérielle, c'est quelque chose en fin de compte qui maîtrise bien, qui connaît bien.
Oui, tout à fait. Et puis c'est là aussi qu'il va constituer sa famille en quelque sorte, hein, parce que tous les acteurs, tous les réalisateurs, tous les scénaristes avec lesquels il va travailler. Dans ses productions, sont issus pour la plupart de ces séries, de ces sitcoms quelque part, hein, qu'il a, qu'il avait initié à la fin des années 90 et au début des années 2000.
En parlant de sitcom connu, pour aborder un peu les films du coffret, parce qu'on discute, mais il y a trois films passionnants dans ce coffret. Ouais. Et justement, on parle de quelqu'un, on va parler déjà de Sans ça rien ne va, enfin les deux films de Nicolas Stoller, je vais les mettre côte à côte, et 5 ans de réflexion, qui sont des films avec Jason Segel, qui lui vient vraiment avec Oh, I Met Your Mother, qui vient de la sitcom et qui a marqué son époque, en plus Oh, I Met Your Mother, et Sans ça rien ne va, on est complètement dans quelque chose de mélancomique, justement, puisque c'est l'histoire d'un type qui est un musicien, et puis il veut faire une grande déclaration à sa compagne, et puis elle le quitte à ce moment-là. Et du coup, il est quasiment au bord du suicide, en fait, Jason Segel, qu'on a un peu oublié, enfin qu'on voit un peu moins aujourd'hui, mais il porte ça, même physiquement, il porte tout le poids du monde sur ses épaules, là, et puis il veut aller se refaire une santé à Hawaï, et puis là, bon, il a du bol, il rencontre Mila Kunis quand même, mais je veux dire, il retombe sur sa femme, qui est en plus là avec une sorte de rocker un peu glam et surtout assez superficiel, quoi. C'est un film, moi, qui m'avait beaucoup marqué lors de sa sortie.
Oui, moi, c'est un film que j'adore. C'est un de mes films préférés. Effectivement, Jason Segel, c'est le cœur du film, hein, à tous les niveaux, parce que non seulement, comme vous le dites, de par son corps, il incarne quand même un personnage comique absolument marquant, mais en plus de ça, c'est lui qui a écrit le scénario, un scénario qui était beaucoup plus long d'ailleurs que ce qui a été tourné, et un scénario qui était cathartique, parce qu'en fait, c'est la situation que vous avez décrite au début du film, quand il se fait quitter par sa petite amie, c'est la même situation dans la vraie vie qui l'a motivé à écrire ce film. Et donc ce film a été écrit en pensant à toutes les ruptures douloureuse qu'il a vécue par le passé. Donc ça, c'est intéressant, parce que il y a dans ce film une dimension tant soit peu autobiographique, qui explique aussi pourquoi on peut être touché par le parcours de ce personnage, parce que évidemment on est dans le grotesque, hein, il y a beaucoup de gags, on va dire un peu limite, la déclaration dont vous parliez au début du film, là en fait il est tout nu, quoi, hein, il accueille sa petite amie tout nue en se déhanchant, et la rupture se fait face à cette nudité. Il veut absolument pas se rhabiller, parce qu'il veut au contraire que les choses soient claires tout de suite. Il veut pas remettre à plus tard la discussion qu'il va avoir avec sa petite amie. Donc tout ça est très gênant, très drôle, tous ces sentiments un peu mélangés, quoi, en fait. Et sans doute qu'il y a du vécu d'une certaine façon. Alors je dis pas que cette scène-là a été vécue par lui, mais en tout cas il y met du vécu. Et c'est pour ça que peut-être qu'on est particulièrement touché par ce film. En tout cas moi vraiment, c'est un film qui m'a beaucoup plu, qui m'a marqué, et vers lequel je reviens souvent. Et je crois que je l'ai pas dit, hein, dans le livret, mais j'hésite pas à le comparer, en fait, à Blake Edwards. Il y a quelque chose de très proche, en fait, du cinéma de Blake Edwards, justement, encore une fois, dans les liens qu'il peut y avoir entre la mélancolie et le comique, mais aussi dans ce côté un peu autobiographique. Les derniers films de Blake Edwards, même pas forcément les derniers, hein, c'est déjà le cas dans Le Jour du Vent et des Roses, mais tout ce qui est Sob, Son of a Beach, ou Elle, etc., on sait que c'est des films qui sont en partie autobiographiques ou autofictionnels, je sais pas comment dire ça. Et que donc la dimension comique, en fait, on la retrouve encore une fois en une forme de dépassement, en quelque sorte, des limites de la destinée humaine, de ce que l'individu peut vivre, comme si c'était une sorte de catharsis. Et c'est exactement, en fait, le récit de Sans ça rien ne va. Au-delà de tous les écueils auxquels il bute dans le film, en fait, le film est le récit d'une réalisation, d'un deuil, et finalement d'un devenir, d'un nouveau devenir de l'individu. C'est exactement finalement ce que cherchent à raconter beaucoup des films de Blake Edwards qui sont dans cette thématique-là.
D'ailleurs, c'est dans le livret. C'est page 16, très exactement. Voilà. Et j'ai été en train de le feuilleter. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Look at my face. My name is might have been. My name is never what it is. My name's forgotten. Vous écoutez Nicolas Taylor, auteur du livret Mélancomique, édité par Elephant Film, au micro de Culture Prohibée. Il y a un autre film aussi de Nicolas Stoller qui est présent dans ce coffret, qui est sur cette veine un peu aussi, très étrange, parce qu'on parle souvent de comédie de remariage, mais là c'est une comédie de presque mariage, mariage ou pas, d'éventuel mariage on va dire. C'est 5 ans de réflexion, c'est la même équipe, hein, Jason Segel. Bon là, le rôle féminin principal c'est Emily Blunt, qui est excellente, hein, depuis elle a fait la carrière qu'on connaît, hein, de toute façon, il y a Chris Pratt aussi, il y a Alison Brie, j'aime beaucoup, mais qu'elle a un peu disparu, elle fait beaucoup moins de cinéma malheureusement. Et il y a cette histoire donc très étonnante de ce couple heureux, ce couple parfait. Et puis elle va avoir une mutation, elle va être obligée de la suivre. Et puis ils vont se donner un temps de 5 ans pour savoir si oui ou non, en fin de compte, ils vont se marier. Et évidemment, il va se passer plein de choses. Et là, c'est pareil, on est dans quelque chose qui tient. Alors, peut-être un peu moins mélancolique que le précédent, mais c'est pareil, il y a de ça quand même, quoi, sur les questions qu'on se pose. Alors, on sent que c'est des films très personnels, en fait, pour Jason Segel en particulier, quoi.
Oui, complètement. Et puis, il est plus douloureux, moi, je trouve. On sent qu'il y a une vraie tristesse dans ce film-là. Parce que, en fait, le récit, vous l'avez dit, hein, c'est l'histoire d'un couple qui se délite. Et donc, c'est une sorte d'histoire à l'envers. C'est un couple parfait. Ils ne respectent pas le bon timing, c'est-à-dire qu'au moment où tout va bien, ils auraient dû se marier, mais non. Ils reportent parce que les circonstances, à leurs yeux, l'exigent. Et en fait, cet acte manqué va empoisonner toute leur vie de couple pendant 7 ans. Et les 7 années en question sont des années assez atroces, quoi. 5 ans plutôt, parce que je confonds avec Bill Wilder. C'est assez atroce, en fait. Il y a une sorte de descente aux enfers, notamment du point de vue de Jason Segel, qui est un jeune homme un peu comme il l'incarne déjà dans Emmett Your Mother ou dans Ça sert à rien ne va, une sorte de bobo, quoi, hein, en quelque sorte, et qui devient une sorte de bof absolument épouvantable, avec des chasseurs, avec des mobiliers, du mobilier chez lui, et même des accessoires qui sont créés à partir des animaux qu'il chasse, enfin, c'est évidemment avec une moustache de salaud. mais il y a tout qui part en vrille, et bien sûr, c'est drôle parce que il y a cette veine comique du dérapage contrôlé, quoi, en quelque sorte, qui est mise en scène, et en même temps, je trouve ça vraiment assez douloureux. La façon dont Jason Segel gère le scénario et la façon dont il incarne son rôle, on est limite plus dans le drame que dans la comédie. À certains moments, en tout cas. C'est pas étonnant que ce soit un film qui ait pu un peu déstabiliser le public, parce que c'est un film dont le ton est quand même encore plus difficile à identifier que dans les autres films de cette époque-là, de Judd Apatow, etc.
Le dernier film du coffret, lui, par contre, il a même eu du succès, un succès, c'est un gros succès, il a eu aussi beaucoup de succès en France. C'est un film de Paul Feig, mais c'est surtout un film, en fait, bah, comme là, on parlait des films de Nicolas Stoller, c'est surtout le film d'une bande d'actrices, et là, c'est surtout aussi le film de Kristen Wiig, qui est vraiment quelqu'un d'important dans le Saturday Night Live, qui est au centre du film, qui est entouré d'un casting dément, dont c'est pareil, Melissa McCarthy, qui après a eu a explosé aux yeux du monde. Mais tout le casting est énorme, hein, on ne va pas toutes les citer, mais c'est un casting extraordinaire. Et là, c'est différent, là, ce n'est pas une comédie d'éventuel mariage, là, c'est la comédie du mariage. Et à partir de là, on a la scène qui a marqué tout le monde, c'est la scène évidemment d'aller manger dans un resto mexicain des tacos avariés. C'est dangereux pour la santé, surtout quand on va essayer des robes de mariée avec. Mais sorti de là, de cette scène plutôt triviale et tout, mais c'est pareil, c'est un film où encore se côtoie cet humour débridé. Parce que là, pour le coup, c'est très rythmé, c'est encore différent des deux autres. Cet humour débridé, et puis à travers le personnage de Kristen Wiig, il y a un côté très dépressif aussi dans le film.
Oui, et Kristen Wiig, dans le film, incarne au féminin, finalement, toutes les caractéristiques qui sont celles du héros de la comédie débile classique, quoi. C'est-à-dire, c'est un personnage en crise, qui vient de connaître un échec. Elle a voulu monter une pâtisserie et ça n'a pas fonctionné, donc du coup elle se retrouve à vivre chez sa mère, enfin pas tout de suite, mais elle se retrouve en colocation alors qu'elle n'a plus l'âge de ça, et après elle se retrouve chez sa mère. Enfin, on a vraiment en fait une sorte de contretemps dans la vie d'un adulte normal qui la ramène finalement à une époque à l'époque d'un jeune adulte, voire même d'un adolescent, quoi. Donc il y a une forme de régression. Elle est complètement happée, hein, par cette régression, au même titre qu'il y avait une régression aussi à d'autres niveaux dans Sans Sarin, Rien ne va, et puis dans 5 ans de réflexion. Ce côté régressif, c'est vraiment une caractéristique de la comédie américaine de cette époque-là. Sauf qu'habituellement, elle est associée à la masculinité, quoi, en fait. Et là, ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est que Kristen Wiig, elle en donne une version féminine, et ça marche complètement. Comme quoi, la comédie débile, c'est pas un genre masculin. Simplement qu'il n'y avait pas eu la bonne personne pour se l'approprier. Et c'est un des derniers grands films de cette veine-là, oui, qui est donc un film de crise, crise sentimentale aussi, parce que elle a un problème de comment dire, d'estime de soi, hein, qui l'a conduit à fréquenter une mauvaise personne, tout ce qui tourne autour du mariage, encore une fois le fait de cet événement qui est un facteur important dans le passage à l'âge adulte. Et qui cristallise finalement toutes ses angoisses, ses inhibitions et ses propres fêlures. Et donc voilà, c'est un film qui est traversé par ça, qui est traversé par des thématiques qui sont finalement très graves, mais traité sous une forme carnavalesque et comique qui est extraordinaire. La scène, effectivement, de l'essayage de Rob, c'est une des scènes les plus cataclysmiques en termes de comédie que je connaisse. C'est imparable. Et tout le monde s'en souvient, et c'est pas un hasard, effectivement. Et au-delà de ça, ouais, c'est un film très beau sur la rédemption, sur la réinvention de soi. Et on a du mal à croire que Kristen Wiig ne soit pas devenue une star depuis. Enfin, elle l'est plus ou moins aux États-Unis. Hein. Tous ces gens-là, en fait, continuent à exister, même s'ils font plus vraiment de films. D'ailleurs, Kristen Wiig, elle anime une séquence devenue anthologique au Golden Globe, je crois, avec Will Ferrell. Hein, où il décerne des prix, et à chaque fois c'est à mourir de rire. Mais même Alison Brie, dont on parlait tout à l'heure, en fait, elle n'a pas vraiment disparu, c'est juste que ses films n'arrivent pas jusqu'à nous.
Oui, on la voit dans des productions Netflix, vous savez, c'est vrai que c'est quand même une génération incroyable, et que les films ne parviennent plus sur nos écrans, en tout cas. Voilà.
Oui, voilà. Et puis bon, c'est vrai que, sans vouloir être caricatural à l'égard des plateformes, c'est jamais non plus c'est rarement des grands films, c'est rarement des grandes réussites. Hein. Il y a quand même beaucoup de loupés et d'imperfections dans ce genre de production. Si, depuis, il y a quand même un film que je dois citer dans le livret, qui n'a rien à voir avec Apatow, en tout cas Apatow n'a pas participé à ça,
Met en scène justement... The Wrong Missy, c'est ça
Oui, voilà, ouais, c'est ouais. Ça, The Wrong Missy. Alors ça, c'est un film assez extraordinaire, et pareil, sur les mêmes modalités, finalement, que la comédie débile classique. Et là, on a une sorte de d'actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, d'ailleurs, qui elle, est plutôt l'équivalent d'une sorte de Jim Carrey des années 2010, une tête assez improbable, et puis surtout une sorte d'aimant à catastrophe, quoi. Tout ce qui se passe autour d'elle tourne mal et part complètement en vrille. Et ça, c'est une mécanique très intéressante dans la comédie américaine de manière générale, et en particulier dans la comédie de ces années-là.
Nicolas Telop, on vous remercie. On rappelle que, parce qu'on a beaucoup parlé du côté un peu triste de ces films, mais ces trois films sont aussi très drôles, hein, qui sont réunis dans ce coffret Apatow Productions. Donc, Sans Sarah, rien ne va, Nos meilleurs amis et 5 ans de réflexion. Et donc, vous êtes l'auteur du livret Mélancomique. Et donc, on vous recommande chaudement ce coffret sorti donc chez Elephant Film. Smooth, slick like a snake. Hunter on the ground till the people all say she a beast. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demédi, La Bête Noire de Compiègne, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Move like a bull, smooth, slick like a snake. Hunter on the ground till the people all say she a beast.